Radio Prague, les informations.
La diplomatie tchèque veut accorder une nouvelle aide humanitaire à l'Afghanistan. La République tchèque s'est jointe à 9 autres pays de l'Union européenne qui promeuvent le vieillissement actif de la population européenne. Une vague de froid s'abat sur le pays. La nuit, les températures descendent à moins 20 degrés. Plus de 830 000 euros, telle est la somme que la République tchèque s'apprête à investir dans la reconstruction de l'Afghanistan, a informé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Vít Kolář. L'argent sera destiné notamment à la rénovation des bâtiments et au déminage de certaines régions. Une partie de la somme sera remise à la représentation locale de l'ONU. La République tchèque est le seul pays parmi les nouveaux membres de l'Union européenne à participer à l'élaboration d'une stratégie encourageant un vieillissement dit sain de la population du vieux continent. Cette stratégie, qui devrait être présentée au niveau européen en 2007, a été également au cœur d'un séminaire organisé en fin de semaine à Prague. Il s'agit des conseils à suivre par les États de l'Union européenne et touchant différents domaines de la vie des seniors, par exemple la santé physique et mentale, le logement, la prévention des accidents, la bonne alimentation, l'usage des médicaments, etc. En République tchèque, les hommes ont une espérance de vie de 72 ans, les femmes de 78 ans et demi. Le Centre tchèque de Paris expose à partir de cette semaine les œuvres du photographe tchèque Pavel Banka, professeur à l'École supérieure des arts appliqués de Prague. Il s'agit d'une collection de photographies de la nature prises dans les années 90 en Oregon, aux États-Unis. L'année dernière, ces photos ont été exposées à Charleroi, en Belgique. En sport, troisième place pour la skieuse de fond tchèque Kateřina Neumannová lors des épreuves disputées samedi à Oberstdorf en Allemagne dans le cadre de la Coupe du monde de ski de fond. La championne tchèque s'est ensuite déplacée à Turin où elle s'entraînera pendant 2 semaines qui précèdent l'ouverture des Jeux olympiques. Enfin, le tchèque Tomáš Werner, 19 ans, a fini 10e au championnat d'Europe du patinage artistique de Lyon. Côté météo, comme je veux l'annoncer au début du journal, le froid sévit en ce moment en République tchèque. Ce dimanche, le ciel a été dégagé et les températures ont été voisines de moins 10 degrés. Dans la nuit, elles tomberont à moins 15, voire moins 20 degrés. Lundi, le soleil devrait briller et de fortes gelées seront toujours au rendez-vous. Il fera de moins 8 à moins 12 degrés, autour de moins 15 degrés dans le nord-est du pays. Lundi, nous fêterons les Zdeněk, un prénom assez fréquent en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague. On se retrouve tout de suite.
Culture sans frontières. Magda Segertova.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de Culture sans frontières. Jusqu'à la fin mars se tient au Musée national de Prague une exposition sur le passé et le présent des médias tchèques, intitulée « L'âge d'or des médias ». Elle a été mise sur pied par le Centre des études médiatiques de l'Université Charles, l'unique institution tchèque spécialisée en la matière. Je vous propose de la visiter. L'exposition est divisée en 3 volets. Ce qui frappe aux yeux dans la salle d'entrée, c'est un panneau où sont affichées les informations toutes fraîches publiées par l'agence de presse tchèque, la Četeka. Ensuite, cette première salle montre à quel point les médias sont devenus indissociables de notre vie quotidienne. On se retrouve successivement dans un salon de coiffure, où l'on est obligé, qu'on le veuille ou non, d'écouter telle ou telle station de radio commerciale, puis dans un appartement, dans un café internet et dans un bistrot, où l'on est convié à suivre à la télé un match de hockey sur glace. Jan Jirák, du Centre des études médiatiques.
C'est la toute première fois qu'une telle exposition est organisée en République tchèque. À la différence des autres pays, de l'Allemagne, de la France ou des États-Unis, dans lesquels il existe même des musées spécialisés dans les médias. Moi-même, je me consacre depuis longtemps à l'éducation médiatique. J'ai été parmi ceux qui ont initié l'enseignement de cette matière dans les écoles tchèques. Je pense que cette exposition, qui popularise la problématique des médias et montre un peu comment vivre avec eux, est aussi une des formes de cette éducation.
En effet, en vous baladant le matin, surtout dans l'exposition, vous n'aurez pas de mal à y trouver des cordes de jeunes. Ils sont impressionnés surtout par la possibilité de se transformer au moins pour quelques minutes en présentateur du journal télévisé ou de la météo.
Nejnovější zveřejněné údaje naznačují, že výstava Zlaté časy médií.
À côté des studios de télévision virtuelle est installée une rédaction fictive de la radio et d'un grand quotidien tchèque. Couper un son à l'ordinateur, photographier soi-même, puis placer son portrait à la une d'un journal national. Ici, tout est possible et les ados se régalent. Philippe Sochor est un lycéen de Písek, en Bohême du Sud.
J'aime beaucoup cette exposition. De toutes les expos que j'ai vues au Musée National, c'est la meilleure. Ce qui me plaît le plus, c'est ce studio de télévision. Ça me donne envie de travailler un jour comme journaliste. Oui, ça me dirait bien. Pour l'instant, je regarde beaucoup la télé et j'écoute la radio. Mais je ne lis pas beaucoup, à part les magazines peut-être.
Yana, future institutrice.
Určitě ta televizní, no.
Ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est le journalisme, la télévision, parce qu'on peut vraiment l'essayer. La place des médias dans ma vie, eh bien, je lis surtout les magazines. Je regarde aussi la télé et parfois j'écoute la radio. Donc je dirais que je suis à peu près tout.
Une autre partie de l'exposition retrace par l'intermédiaire de sons, d'images, de photographies, d'objets d'époque et de textes, la vie des mass-médias tchèques et de leurs visages emblématiques à différentes périodes. On revit ainsi le boom de la presse écrite à partir de 1860 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, la naissance du reportage sportif à la radio, l'époque des grandes personnalités du journalisme de l'entre-deux-guerres, la période de la censure et de la propagande communiste, marquée aussi, ne l'oublions pas, par les exploits d'une pléiade de très bons journalistes. On termine avec l'actualité brûlante, celle des médias post-communistes cherchant tant bien que mal leur place. Ainsi, l'âge d'or des médias au Musée National a pour ambition de susciter une réflexion sur le rôle des médias dans la société, hier et aujourd'hui, et évidemment sur leur place dans notre vie. Dans cette salle, je rencontre deux amis retraités. Pour eux, cet historique n'est qu'un voyage dans le temps leur permettant de retrouver les reliques bien connues du passé. Aujourd'hui, ils exigent de la part des médias bien plus que du temps de leur jeunesse.
Měli by být objektivní a posuzovat věci opravdu tak, jak je, neskreslovat a nevytahovat některé věci z kontextu.
Ils devraient informer de manière objective, sans manipuler la réalité ou tirer des choses de leur contexte, comme ils le font souvent. Et puis, pour parler des faits concrets et actuels, cela ne nous plaît pas que les chaînes de télévision nous servent toutes ces émissions de reality show au lieu de diffuser plus de documentaires, par exemple. Ici, les gens ne sont pas habitués à ce genre d'émissions qui copient les modèles occidentaux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça.
On en revient à l'éducation médiatique qui, selon Yann Hirak, devrait apprendre aux jeunes, mais pas seulement à eux, comment se servir des médias sans céder à leur emprise. Précisons que dans certaines écoles tchèques, l'éducation médiatique est proposée aux élèves comme matière en option, mais qu'elle figure dans le nouveau programme d'enseignement préparé par le ministère de l'Éducation. 16 ans après la chute du communisme, la vie des médias tchèques est bouillonnante et surprenante même pour ceux qui sont dedans. Yann Hirak, comme beaucoup d'autres, s'interroge notamment sur leur originalité. Existe-t-elle à l'heure où la majorité des émissions télévisées sont des clones, des formules qui fonctionnent à l'étranger, à l'heure où les revues ne sont que des copies conformes vers tchèques de grands titres internationaux, à quelques exceptions près, bien sûr. Dans la République tchèque post-communiste, peut-être plus qu'ailleurs, l'argent est le roi dans le domaine médiatique. Le nombre d'exemplaires vendus, le taux d'audience sont des critères majeurs. Pourquoi alors est-on étonné par l'absence d'un vrai quotidien de référence du type Le Monde, qui, paraît-il, serait invendable? Pourquoi a-t-on du mal à accepter la disparition des émissions en tchèque de la BBC, réputées pour leur qualité et la fiabilité de l'information diffusée? Dans ce contexte, l'âge d'or des médias n'est-il pas un titre quelque peu ironique, Jan Hirák?
J'espère que oui, mais je pense que les médias vivent en effet leur âge d'or. Sinon, les médias, en tout cas leurs propriétaires. Jamais les médias n'ont attiré autant d'attention. Jamais auparavant, ils n'ont occupé autant l'espace public. Jamais ils n'ont joué un rôle aussi important dans la vie de la société. Bref, les médias vivent sans doute leur âge d'or. Je ne sais pas si c'est un âge d'or pour nous.
Média prožívají něco, co pro ně jsou zlaté časy. Nevím, jestli to jsou zlaté časy pro nás.
Ajoutons que le quotidien Hospodářské noviny, un des partenaires de l'exposition, a publié à l'occasion de sa tenue un supplément spécial distribué gratuitement à tous les visiteurs intéressés. Les journalistes et spécialistes en la matière y reprennent et abordent de manière détaillée les grands thèmes de l'exposition. Les médias et la politique, les médias et la publicité, l'histoire de la presse à sensation, le chemin parcouru depuis les premières presses à imprimer jusqu'à la numérisation, le danger que représente l'Internet pour les journaux classiques, le métier du journaliste dans les pays tchèques. En marge de l'exposition, le Musée national organise une série de manifestations et de conférences sur le sujet. Par exemple, le 6 février prochain, les meilleurs exploits journalistiques de l'année passée y seront récompensés par le prix Ferdinand Perotka. La cérémonie aura lieu dans le Panthéon du musée. Plus de détails sur tous les événements sur www.nm.cz. Enfin, une quatrième partie de l'exposition « L'âge d'or des médias », axée sur la science et l'art, sera ouverte en février.
Culture sans frontières.
L'opéra Zaïd de Wolfgang Amadeus Mozart sera présenté pour la première fois en République tchèque lors du festival de musique Smetanovské dny, les journées Smetana. Il se tiendra du 1er février au 2 mars à Plzeň, en Bohême de l'Ouest. Rappelons que l'œuvre intégrale, qui n'a jamais été jouée du vivant de Mozart et dont on ne connaissait que des fragments, a été retrouvée il y a un an par le musicologue et flûtiste d'origine allemande Andreas Kröper, installé en République tchèque. L'opéra a été créé en 1780 environ, explique-t-il, mais comme on avait perdu le livret, il n'a jamais été joué. J'ai réussi à le retrouver dans les archives à Vienne. J'ai recomposé tous les éléments pour obtenir la version originale et intégrale de Zaïd, a dit Andreas Kröper. Il a également signé la mise en scène de Zaïd qui ouvrira le 1er février à la synagogue de Plzeň les journées Smetana. L'opéra, dont l'intrigue se déroule au sein d'un sérail, raconte l'histoire de la favorite du sultan, Zaïd, amoureuse d'un esclave chrétien. À Plzeň, l'œuvre sera interprétée par 5 chanteurs tchèques et étrangers. Ils seront accompagnés par l'ensemble Ariusa Orchestra. Quatorze concerts de musique classique, mais aussi de jazz et de world music, des projections de films, conférences et expositions. Tout cela est à l'affiche des journées Smetana. Par ailleurs, la musique de Bedřich Smetana, ainsi que celle de Richard Wagner, plus particulièrement des airs d'amour de leurs opéras, retentiront lors du récital de la soprano tchèque Eva Urbanova. Le concert est programmé pour le 11 février prochain. Le programme intégral du festival sur www.smetanovskedny.cz. Thank you. C'est sur cet extrait de Zeid de Mozart que se termine le magazine culturel de cette semaine. Magdalena Segertova vous remercie de votre attention. Bonne écoute dès la suite du programme de Radio Prague. Au revoir.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Merci d'être avec nous. Au milieu du triangle des villes d'eau, Karlovy Lázně, Mariánské Lázně et Františkovy Lázně, nichée dans la forêt Slavkovský, se trouve Bečov. Cette petite ville de Bohême occidentale est dominée par un vaste complexe de châteaux gothiques et baroques. Mais le vrai bijou qui attire à Bečov de nombreux visiteurs d'Europe, c'est le reliquaire de Saint-Maur, créé vers 1200 en Belgique actuelle et amené à Bečov par ses derniers propriétaires, les ducs Beaufort-Spontin de la noblesse belge. Puisque le château de Bečov accueille les visiteurs pendant toute l'année, nous y sommes rendus pour vous le présenter. La silhouette majestueuse de l'ensemble de châteaux de Bečov, visible de loin, se dresse au-dessus de la rivière Tepla. Nous arrivons sur la place centrale bordée de maisons anciennes. La porte du jardin entourant le château se trouve juste en haut de cette place. Les origines de Bečov sont liées à une importante voie de communication reliant la Bohême à l'Allemagne. Un autre facteur ayant contribué au développement de la ville, l'extraction de l'or, de l'argent et de l'étain. C'est au milieu du XIVe siècle qu'un château gothique avec une chapelle a été érigé sur un éperon rocheux. Au XVIe siècle, les propriétaires d'alors de Bečov, la famille Pluch de Rapstein, a fait relier la tour de guet et le donjon qui forme le noyau gothique du château par un palais Renaissance. Le propriétaire suivant, Dominique Kaunitz, a élargi le complexe en 1750 d'un château baroque. Et c'est dans l'une de ces salles que les visiteurs peuvent admirer la plus grande fierté de Bečov, le reliquaire roman de Saint-Maur, abritant les reliques de trois saints, dont Maur, d'après lequel il est nommé. Exemple unique, proche par son importance du reliquaire de Chagnes à Aix-la-Chapelle, le reliquaire de Saint-Maur, doré, richement sculpté et garni de 500 gemmes, se présente sous la forme d'une maisonnette. Il a été fabriqué entre 1200 et 1230 sous l'impulsion de la famille Rumigny qui possède de vastes domaines dans le sud de la Belgique actuelle et qui au XIe siècle a acquis les reliques de trois saints, Maur, Timothée et Jean-Baptiste. La chasse destinée à abriter le relique a vu le jour à l'abbaye des Bénédictins à Florennes. Après la disparition du monastère à la suite de la Révolution française, le reliquaire a été déposé dans une église paroissiale, explique le guide du château de Bečov, Andrzej Cink.
V roce 1838 ho nabídla tamnější duchovní správa k prodeji z důvodu finanční.
En 1838, la paroisse de Florennes a offert le reliquaire, pour des raisons financières, au duc Alfred Beaufort-Spontin contre 2500 francs. Celui-ci l'a fait réparer et après l'avoir exposé avec succès en 1878 à l'exposition universelle à Paris, il l'a ramené à son siège à Bečov.
Thank you.
Le reliquaire est resté à Bechtchov aussi longtemps que les ducs Beaufort-Spontin, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre. Contraints de quitter la Tchécoslovaquie pour avoir sympathisé avec les nazis, les Beaufort l'ont caché en hâte dans le sous-sol humide de la chapelle du château, dans l'espoir de pouvoir venir plus tard le retrouver. Il n'en fut rien, le reliquaire est resté pendant 40 ans dans cet abri. Sa découverte fait penser à une histoire de détective. On écoute Andrzej Cink.
V roce 1984 navštívil zastupitelství československé.
En 1984, la représentation diplomatique tchécoslovaque à Vienne a reçu la visite d'un commerçant venant des États-Unis, un certain Danny Douglas. L'offre qu'il est venu faire au gouvernement tchécoslovaque était pour le moins inhabituelle. Il proposait 250 000 dollars américains en échange de l'autorisation de retirer du territoire tchécoslovaque un objet d'art qui n'avait pas un lien direct avec son histoire. Après avoir vérifié qu'il s'agissait d'une offre sérieuse, puisque Douglas avait effectué une transaction similaire en France, les autorités tchécoslovaques ont commencé à négocier d'éventuelles conditions d'exportation. L'affaire s'est retrouvée entre les mains de la police criminelle, qui avait une tâche difficile, découvrir un objet historique dont on ne savait pratiquement rien. Après avoir fait des recherches dans les archives, leur attention s'est concentrée sur les familles aristocratiques, puisqu'il devait s'agir d'un objet très ancien et de grande valeur. Finalement, Danny Douglas a restreint la piste à 150 km à l'est de Nuremberg. Alors, on a cherché parmi les familles installées en Bohême occidentale et on a fini par trouver, dans une publication des années 1930, la mention sur le reliquaire de Saint-Maur. Le 5 novembre 1985, le reliquaire effectivement était retrouvé à l'aide de détecteurs de métaux sous le plancher de la chapelle de Bechtchov. Hélas, le séjour de plus de 40 ans dans un milieu humide l'avait gravement endommagé. Il n'est donc guère étonnant que les travaux de restauration aient duré 13 ans. Ce n'est qu'en 2002 que le reliquaire a pu être exposé dans toute sa beauté au château de Bechtchov. Nous entrons dans la salle plongeant dans l'obscurité, au milieu de laquelle brille, protégé par une vitrine, le reliquaire, long de presque 1,5 mètre. On ne peut avoir que le souffle coupé face à cette œuvre rare et ancienne, témoin de la maîtrise de l'orfèvrerie romane, qui raconte l'histoire vieille de 800 ans de ceux dont il abrite les reliques, Saint-Maur, Saint-Timothy et Saint-Jean-Baptiste. L'histoire connaît plusieurs morts, mais celui dont les reliques reposent à Bechtchov était prêtre et martyr, torturé et décapité pour avoir converti au christianisme des dizaines de païens au premier siècle de notre ère. Le reliquaire long de 138 cm, large de 42 et haut de 65 cm, et orné de reliefs représentant Jésus-Christ est mort et de deux côtés latéraux celle des 12 apôtres. Le toit en forme de sel est décoré de boules de cristal et de représentations de la vie des trois saints. Les médaillons émaillés présentent une iconographie d'inspiration évangélique. La beauté éclatante du reliquaire est accentuée par un riche ornement en argent doré et par cinq pierres précieuses finement taillées. « Voilà, c'est tout aujourd'hui. J'espère que la visite de Betchoff vous a donné envie de vous y rendre. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear it.